Podcast.
In Atlantis en VO, Cœur perdu en Atlantide en VF, c'est le 42e livre publié de Stephen King et son 6e recueil. En français, il a été traduit par William Olivier Desmond pour Albin Michel, ça, Aymeric l'a dit tout à l'heure. Le livre audio en VO, il est lu par l'acteur William Hurt et par King lui-même. À noter que William Hurt, qui est décédé très très récemment en mars 2022, il a joué le rôle principal dans l'adaptation de la nouvelle Petit Soldat de Stephen King, qui se trouve dans la mini-série Rêve et Cauchemar.
William Hurt est mort ?
Oui.
Je viens de l'apprendre.
Ah merde ! Ouais, très bah bien. Ouais, très récemment, le mois dernier.
Attends,
côté mort tragique, je pense qu'on va reparler dans les adaptations.
Ouais, je crois qu'on l'avait déjà dit en plus qu'il était mort, William Hurt.
Ouais, moi, vu que j'étais pas là les deux premiers, je vais sans doute faire des répètes, mais je récapitule. Ici, William Hurt, il dit la première histoire et les deux dernières. Le livre, il est dédié à Joseph, Léonora et Ethan. Alors, Joseph, c'est un de ses fils, qu'on connaît sous le nom de Joel. Léonora, c'est sa femme de l'époque, qui est aujourd'hui son ex-femme. Donc, à Joel, hein, pas à Stephen King.
Ah, j'allais dire, attends, quoi?
Ouais, non.
William Hurt est mort, et Stephen King avait une autre femme avant Tabitha. Mais quand, puisqu'ils étaient déjà ensemble à la fac?
Non, il est polygame, en fait.
Peut-être, mais du coup, c'était un scoop. Enfin, moi, je le savais pas. Trop d'infos.
Et Ethan, c'est l'enfant de Joel et de Léonora. C'est donc le premier petit-fils de King. Le roman, il est resté 16 semaines sur la New York Times best-seller list avec un meilleur classement à la 4e place qui a été atteint le 3 octobre 99. Le Publishers Weekly le classe à la 6e place des meilleures ventes de romans aux États-Unis en 99. Il a aussi été nommé au prix World Fantasy du meilleur recueil de nouvelles, au prix Locus du meilleur recueil de nouvelles, terminant la 5e place, et au prix British Fantasy et au prix Bram Stoker du meilleur recueil de nouvelles.
C'est ouf parce que j'en avais jamais entendu parler de ce livre.
Pareil.
Ah oui.
Mais alors je pense que c'est l'époque où j'ai commencé à en lire.
Ouais, mais je pense que c'est aussi ça parle. On n'en a pas entendu parler, ok, mais ça parle beaucoup plus aux Américains, pour le coup.
Je pense qu'il y a de ça. Je pense que en France, de toute façon, les Kings, de façon générale, les Kings dont on entend le plus parler, c'est ceux qui non seulement ont été adaptés, qui en plus ont eu des adaptations à succès. Et c'est pour ça, moi, parmi mes romans préférés, il y a Blaise, qui pour le coup est sous le nom de Richard Bachman et que personne ne cite jamais, dont on n'entend jamais parler, même dans les groupes de fans, tu vois, il y a un groupe Facebook avec 13 000 fans et pour voir une mention de Blaise, il faut vraiment se lever tôt, et t'en as une ou deux par an. Et je pense que Cœur perdu en Atlantide, l'adaptation, elle est pas du tout connue en France.
Parce qu'elle est nulle. Et j'en parlerai après.
Non, on sera pas d'accord alors, mais
On en parlera après.
Alors, Cœur perdu en Atlantide, c'est donc deux romans courts, des novellas, et trois nouvelles, dont un épilogue, qui s'enchaînent chronologiquement et qui partagent les mêmes personnages à plusieurs époques de leur vie. Il y a plusieurs particularités éditoriales, comme souvent avec les recueils de nouvelles, en fait, c'est un micmac de plusieurs trucs qui ont été publiés à gauche à droite. En fait, la troisième histoire, Willy l'aveugle, elle a été originalement publiée dans Anatheus, The Final Issue, en 94, et elle est apparue plus tard avec quelques petites révisions dans une auto-parution de 97, intitulée Six Stories. La version qui est publiée dans le recueil là, elle a été largement révisée depuis ces deux publications. Donc il l'a complètement revue pour l'intégrer. Une partie, un tout petit bout de la quatrième histoire, Pourquoi nous étions au Vietnam, a été éditée sous format d'un petit fascicule auto-publié et offert le 6 avril 99 à une soirée à New York qui célébrait les 25 ans de carrière de King. Lui aussi. En fait, je sais plus dans quel épisode on en avait parlé. King, il avait, je sais pas si, je pense pas qu'il le fasse encore, mais dans des grandes soirées comme ça, où un peu tout le, tout le gratin est invité. Il a une maison d'auto-édition qui s'appelle Filtrum Press, je crois, dont on avait déjà parlé, parce que ou dans lesquelles il refile des petites nouvelles inédites comme ça. Et on sait qu'il y a des choses qui ont été publiées, mais uniquement via Filtrum Press, donc uniquement données au gratin new-yorkais à ces soirées, et qui aujourd'hui, je crois qu'il y avait que c'était un bout du prologue de Shining qui avait été perdu comme ça parce qu'il l'avait juste refilé en disant voilà, et puis t'as 50 copies et puis tu les revois jamais parce que bah, tu sais, comme quand tu rentres chez toi d'une soirée et qu'on t'a filé un flyer, bah tu le balances quoi, tu t'en fous en fait. Et aujourd'hui ça vaut de l'or, il y a des histoires comme ça qui sont perdues. Et donc ce bout d'histoire de la quatrième nouvelle, il a aussi été largement revu et corrigé avant d'être intégré dans le recueil. Et enfin, la cinquième histoire, elle a été rajoutée plus tard, après même que le premier manuscrit ait été envoyé à l'éditeur. C'est vraiment, pour le coup, c'est pour ça qu'on dit que c'est un épilogue, parce qu'il l'a vraiment rajouté à la toute fin, en se disant, en fait, non, il manque quelque chose.
Faut finir de relier tout ça, quoi.
Alors ouais, qu'en fait,
exactement.
Est-ce qu'il manquait vraiment quelque chose?
Bon, oui.
Je laisse la question en suspens.
Pour moi, clairement, ça aurait pas du tout été la même expérience. Donc, ouais. Enfin, bref.
Non, mais... C'est une très bonne réponse.
Quand King il a commencé à travailler sur la première nouvelle qui compose Cœur perdu en Atlantide, il travaillait en même temps déjà à l'époque sur Sac d'os, juste pour resituer un petit peu dans la timeline de la bibliographie. La première histoire du recueil était trop courte pour un roman et trop longue pour une nouvelle. Rappelons que c'est lui qui a popularisé le format des novellas, ce qui est un hybride entre la nouvelle et le roman. Ça faisait longtemps qu'il avait envie de parler des années 60. Sans forcément penser à publier le tout, il a quand même commencé à imaginer l'histoire comme étant reliée à d'autres pour faire un ensemble cohérent. Il a donc écrit la deuxième histoire et repris à travailler les autres dont je parlais pour au final en faire ce qu'on connaît. Sa volonté, elle est dictée directement via le titre et la référence à l'Atlantide, qui est, rappelons-le, une cité prospère engloutie. C'était de montrer tout ce que sa génération aurait pu faire, mais où elle a échoué. Et c'est là où on disait tout à l'heure, on bascule dans le King qui dénonce et puis qui fait de la politique et du social et qui sort un peu des monstres sanguinolents, quoi.
Mais tu vois, moi, voilà, ce côté cité prospère engloutie, c'est ce que je ressens à la fin.
c'est le but, moi, okay, de ce que pardon. J'ai compris, ouais. En fait.
Bloop, bloop.
Ouais. Oui.
Donc c'est ça, ça donne une suite d'histoires politiques, sociales et engagées où King dénonce les mauvais choix de l'Amérique après les 30 Glorieuses et notamment la guerre du Vietnam, ça on vous l'aura pas caché, contre laquelle il a manifesté, et le matérialisme. Pour la partie guerre, en fait, il raconte le point de vue de ce qui se passait en Amérique à cette époque, car lui-même n'y est pas allé en raison de plusieurs soucis de santé. Tout à l'heure, on a cité pieds plats, myopie, hypertension, et il y a aussi les tympans percés. Alors ça, je sais plus pourquoi ni comment, mais c'est une info que j'ai retrouvée dans plusieurs biographies, donc qui, a priori... pourrait être sûr, mais en tout cas, il n'a pas fait la guerre du Vietnam, et ça se ressent surtout dans Chasse-cœur en Atlantide, où il raconte lui-même sa propre jeunesse à l'université du Maine et son activisme contre la guerre du Vietnam. Je sais que sur Internet, si on cherche, on trouve des photos de lui en train de manifester avec des panneaux contre la guerre du Vietnam. Et il y retranscrit aussi les interminables parties de cartes qu'il faisait à cette époque, renforçant l'aspect très autobiographique de cette histoire. Et enfin, pour l'aspect dénonciation du matérialisme, en fait, à peu près à la même époque, en 2000, il publie l'essai « Écriture, mémoire d'un métier », dans laquelle il y a une citation qui est très aimée des fans et de beaucoup de médias, qui dit « On avait une chance de changer le monde et on a préféré le téléachat ». Donc déjà, à l'époque, on retrouvait le King un peu sarcastique, voire parfois un peu aigri, qu'on retrouve aujourd'hui sur Twitter.
Oui, hier, il a fait un tweet disant que l'Amérique était un stand de tir.
Ouais, ouais. Mais il a fait. Faudra un jour qu'on commence à s'occuper de ses essais. Il a fait un essai sur la régulation de la circulation des armes à feu aux États-Unis, qui est un très très bon essai. Ouais, exactement, qui est paru en français dans le magazine America il y a 3 ou 4 ans, je dirais, qui à mon avis se trouve encore. Mais ouais.
Il est paru en français parce que moi il y a tout un passage que je me suis tapé en anglais alors que j'y pompais rien pour un épisode du Roi Steven. Je savais pas qu'il existait en français.
Ouais, il est paru en français.
J'aimerais bien le lire.
Je pourrais te le prêter, mais peut-être qu'il se trouve encore.
Moi, je vais essayer de voir. On en reparle après.
Ouais, dans le magazine America, et si vous cherchez l'info, okay. Elle est sans doute sur le site stephenkingfrance.fr.
Très bien, j'irai voir.
Pour plusieurs critiques proches de King, ce livre, il parle surtout de la culpabilité de survivance. Hein. Du coup, je vous ai un peu embêté avec ça là-dessus sur les dernières nouvelles. C'est un des premiers livres de King à se détacher complètement de l'horreur et à entrer dans l'émotion et à traiter aussi directement des sujets de société très politiques. Il y a aussi j'ai retrouvé beaucoup de critiques qui parlaient de ce roman comme étant de ce recueil comme étant assez désordonné. Mais comme le dit George Byam, qui est un spécialiste de King dans son livre The Stephen King Companion, c'est en miroir à la guerre du Vietnam qui elle-même était désordonnée. Et ça a permis aussi à d'autres critiques de réaliser, grâce à ce recueil, que King ne pouvait plus être contraint à la case étriquée de auteur d'horreur. Mmh. Et j'ai envie de dire, il était temps.
Bah oui. Bram Stoker, encore une fois, quoi.
Ouais. Ouais. Pour la partie autobiographique, j'en parlais pour la deuxième histoire. On trouve aussi beaucoup d'éléments de la jeunesse de King dans la première. Qui est très très proche de l'histoire Le Corps, qui est adaptée en film sous le nom de Stand By Me. Peut-être que ça parlera plus à certaines personnes. Si vous avez écouté notre épisode à ce sujet, vous savez à quel point Stand By Me est inspiré de sa propre enfance. Et dans cette première histoire qui se passe un an après Les Fées du Corps, difficile de pas faire le parallèle avec King. Déjà, on a Bobby Garfield qui a une douzaine d'années comme King à l'époque et qui vit seul avec sa mère, sachant que King vivait à l'époque avec ses frères et sœurs, seul avec sa mère parce que son père s'est barré et plus jamais revenu. Il se lie d'amitié avec des enfants avec qui il joue en forêt ou le long du chemin de fer, comme dans Le Corps, et surtout comme un des événements les plus traumatisants de sa propre enfance, c'est-à-dire un de ses petits camarades qui s'est fait happer par un train sous ses yeux. Donc évidemment, n'a pas survécu. Voici venu le temps des connexions. Si on lit Cœur perdu en Atlantide, c'est parce que on est aussi en parallèle en train de faire La Tour sombre. Il y a des choses qui parlent déjà. Alors moi, j'ai fini de relire le tome 7, Grand Poil, et à l'heure où on parle, en plein dans la fin du tome 7. Enfin, de la deuxième moitié du tome 7.
J'ai relu les refs.
J'en suis à 10%.
Voilà, donc on avance dans le tome 7. Donc il y a des choses qui ont parlé à mes camarades, il y a des choses qui leur parlent pas encore, donc je vais pas spoiler. Ici, c'est pas le but. Juste, c'est quand même important de relever que la première nouvelle, Crapule de bas étage en manteau jaune, c'est une histoire qu'on peut directement placé dans le cycle de la Tour sombre, parce qu'en fait les hommes en manteau jaune qui poursuivent Ted Brottigan sont des serviteurs du roi cramoisi. Ils le pourchassent parce qu'il est un briseur de rayons qui s'est échappé. Et le roi cramoisi, il veut l'utiliser contre son gré pour poursuivre sa volonté de briser les rayons de la tour et faire sombrer les mondes. Si Ted est capturé, il semble qu'il réussisse à s'échapper puisqu'il enverra plusieurs années plus tard à Bobby une enveloppe remplie de pétales de rose, affirmant le lien de l'histoire avec la tour. Et Bobby, il réalise à cet instant, et là je cite, et moi j'avais retrouvé que la citation en VO, donc j'ai fait une traduction grossière, « Il existe d'autres mondes que ceux-ci, des millions qui tournoient autour de la tour. » Et on n'en sait plus sur ce qu'il advient de lui quand il se fait capturer dans deux histoires du cycle, c'est-à-dire le septième tome, dont on parlera un peu plus tard dans Le Roi Stephen, mais aussi dans Territoire, qui est coécrit avec Peter Straub, parce que oui, telle histoire, Territoire étant le deuxième tome de Talisman, il se situe aussi dans l'univers de la Tour sombre, et après ça devient compliqué si je développe plus, mais tout est lié à la Tour, quoi. C'est, en gros, c'est ce qu'il faut
tout
comprendre.
Sachant que les chemins mènent à la Tour.
Oui, non, mais c'est ça. Sachant qu'il y a aussi des mentions du cas et du cas-tête et d'autres encore références très très évidentes à la Tour sombre quand on connaît le palabre et le haut-parler et non pas le haut-parleur. Et enfin, pour définitivement enfoncer le clou, le nom complet de Ted, c'est Ted Stevens Brottigam. Et je vais vous laisser compter combien ça fait de lettres, tout ça.
19 de tête.
19.
Oh là là. Je vais pas compter, ouais. Mais si ça fait pas 19, je vois pas l'intérêt.
Ça fait 19, donc si vous avez lu La Tour sombre, vous comprenez l'importance de ce chiffre qu'on retrouve à peu près dans toutes les histoires de King de toute façon. Ensuite, un autre lien avec La Tour sombre, et on sait pas trop si c'est un hasard dû au chapeau magique des noms ou pas. Carole, elle se fait maltraiter par un certain Harry Doolin, du même nom de famille de Molly et Eamon Doolin dans Les Loups de la Cala, le tome 5 de La Tour sombre.
C'est qui? Je me souviens pas de qui sont ces
gens. C'est des jumeaux, une paire des loups de la Cala. C'était pas les principaux enfants qu'on ait vus, mais il y a des doulines déjà dans la Cala.
Ça sent un petit peu le chapeau des noms, ça, quand même.
C'est possible, hein. C'est possible.
C'est d'accord, ouais.
C'est relevé, voilà. Je mets quand même un doute sur le fait que ce soit une vraie Rafapa. Après, sachant que, de toute façon, à cette époque-là, il est en train d'écrire La Tour Sombre. Enfin, c'est pour ça que ce roman, il est très connecté, enfin, ce recueil, il est très connecté à La Tour Sombre parce que il est vraiment en train de construire la fin du cycle. Il a revu les quatre premiers tomes et, donc il a peut-être encore des noms en tête et peut-être qu'il se mélange un peu les pinceaux. On n'est pas à l'abri. Dans la deuxième nouvelle, Chasse-cœur en Atlantide, Carole est amenée à participer à un attentat terroriste par un dénommé Raymond Figler, potentiel pseudonyme de Randall Flagg. En tout cas, ce sont les mêmes initiales. Et étant donné le lien du début du recueil avec la Tour Sombre, c'est un peu compliqué de douter le fait que Flagg traîne dans les parages.
Ça, c'est une info intéressante.
En fait, il y a beaucoup d'antagonistes chez King, des méchants et souvent beaucoup de terroristes ou beaucoup d'activistes très dangereux. Je ne sais plus dans quelle autre histoire, il y en a un autre comme ça, qui ont des initiales en RF. Donc tu te dis, si ce n'est pas Randall Flagg, c'est au moins quelqu'un qui potentiellement est sous l'influence de Randall Flagg.
Ben, en plus, c'est un sale type qui l'a manipulé et qui a disparu. On ne sait pas ce qu'il est devenu.
Bah ouais, et c'est très
parce que pour le coup, pour le coup, lui, on ne dit pas qu'on a retrouvé son sang dans la maison qui a brûlé. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc effectivement,
il s'évapore. Il vient, il fout la merde, il s'évapore.
Comme de par hasard, la bombe s'est à mal sautée. Tout ça, oh là là, jamais de la vie j'aurais pensé. Bon, surtout parce que je l'ai lu en diagonale, mais quand même.
Et dans la cinquième histoire, alors ça, j'ai pas relevé grand poil dans ton résumé, si tu le disais, je crois pas que tu le disais, donc je mets un doute dessus que vous allez me confirmer. On apprend que Raymond Figler a appris un tour à Carole, il lui a appris à devenir Dim. Est-ce qu'on a une référence
non.
à ça ou pas? Parce que j'ai eu
ça
un doute.
Rien du tout.
Je l'ai lu, alors je sais plus dans quel... je crois que c'est sur un Reddit que je l'ai lu, et je pense que c'était un peu tiré par les cheveux, et...
Bah, tu sais quoi, je vais faire une recherche par entier, j'ai sous les yeux.
Peut-être qu'il y a un truc en VO qui a pas passé la traduction sur le fait qu'elle ait appris à se faire discrète.
Ouais.
Mais le mot dim qu'on retrouve effectivement souvent dans La Tour Sombre, là.
Je crois que c'est. Genre, je crois que je l'ai lu dans ce que je suis en train de lire là, parce que vu que j'ai pas fait mon deuil de la fin de la relecture de La Tour Sombre, je suis en train de lire toutes les études qui sont sorties sur La Tour Sombre et notamment les livres de Bev Vincent qui pour le coup sont vraiment très bien mais sont en anglais, et quand il résume en fait il a un gros chapitre sur toutes les histoires qui sont liées à La Tour Sombre mais qui sont très liées à La Tour Sombre, comme notamment Cœur perdu en Atlantide, et je crois que c'est lui qui a mis ça dedans.
En tout cas dans la version française il y a pas le mot dim n'apparaît pas.
Okay. Je viens de faire une recherche par mots-clés, et effectivement, ça n'apparaît pas.
Ok, bah, j'irai rechercher quand même, mais bon,
faut,
alors à mettre
peut-être choper la
parenthèse.
VO. À mon avis, il faudrait confirmer avec la VO, parce que ça pourrait correspondre. Effectivement, on apprend qu'elle a appris à se faire discrète pour pouvoir justement passer inaperçu, changer de vie si au besoin. Quoi.
Après, c'est peut-être Bev Vincent qui, lui, interprète cette info-là comme il lui a appris à devenir Dim. Mais j'irai relire le truc en VO. En plus, c'est pas très long.
Elle ça, dit... Alors, je connais bien l'art de passer inaperçu, un art qu'on m'a appris il y a bien longtemps, l'art d'être de la couleur des murs.
Ah ouais, donc ça serait intéressant de voir en VO ce que c'était.
Ouais, ou c'est une interprétation, comme tu disais, de...
Ouais, est-ce que c'est le traducteur monsieur... qui n'a pas compris ce que c'était dit, mais qui du coup l'a traduit en mode « je suis caméléon » ou est-ce qu'il y a Dim en VO ? Bon, à vérifier, et du coup,
est-ce que ça serait pas est-ce que ça serait pas un petit point culotte, l'air de rien? Avec ça.
Ça, c'est vrai. Et vous aurez la réponse dans le dossier multivers sur le site stephenkingfrance.fr, n'est-ce pas? Parce que j'irai vérifier l'info avant de la rajouter. Salut, c'est Émilie du Futur. Alors, j'ai pu vérifier en version originale et il se trouve qu'en anglais, il est bien dit mot pour mot par Carole que Raymond Figler lui a appris à devenir Dim. Une référence qu'on perd donc complètement à la traduction. Voilà, c'est tout, je vous laisse reprendre le cours normal de votre épisode. Pour terminer, on a des mentions des régulateurs comme le roman du même nom paru sous le nom de Richard Bachman qui lui-même est ô combien connecté à la Tour Sombre, notamment à cause de son double Désolation, et ça j'en dirai pas plus. Et enfin, dans le recueil, on retrouve également la ville de Derry, qu'on ne présente plus, qui est une des villes fictives les plus présentes dans l'œuvre de King. Voilà. C'est tout pour moi, et c'était déjà pas mal.
Ouais. C'était déjà pas mal, effectivement.
J'ai dopé Jenny. Mais j'étais pas là aux deux derniers épisodes, il fallait que je rattrape. Je peux parler, mais bon.
Est-ce que vous avez des choses à rajouter?
Nine.
Salut, c'est Emilie. Merci pour votre écoute de cet épisode du Roi Steven. Si vous aimez King et que son actualité vous intéresse, je vous propose d'écouter également la Gazette du Maine. C'est le podcast que je fais et dans lequel je vous tiens au courant de ce qui va être publié, des dernières informations sur ce qui est en cours d'adaptation, de ses nouvelles interviews ou des autres sujets qui le concernent, deux fois par mois, en moins de 10 minutes. La Gazette du Maine est disponible sur toutes les plateformes, alors je vous dis à bientôt, j'espère. Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.